notre Bible ne contient trois livres principalement, les Proverbes, Ecclésiaste et donc Cantique des Cantiques. Alors si on a ce titre Cantique des Cantiques, c'est parce que Salomon considère ce petit livre le meilleur de tout. Donc c'est le cantique au-dessus de tous les autres. Et c'est Salomon qui le dit. Alors, c'est un poème. La poésie hébreu est un peu différent de la poésie française, par exemple. On rime des idées plutôt que des mots ou des syllabes. Et ce que nous avons, en fait, en premier sens, est une chanson, poème de deux amoureux. Deux personnes qui se marient. Salomon, le roi, et la Sulamite, sa femme. Il y a des gens qui voient dans ce poème seulement une image de l'amour conjugal et des pages assez passionnées. Alors si on se limite à ça, et c'est vrai qu'on peut le lire, et je trouve que chaque couple marié fera bien de le lire entre eux, on peut perdre quelque chose parce qu'il y a quand même un côté extrêmement précieux, extrêmement beau, spirituel. Et c'est pour ça qu'il y avait des allégories faites. D'abord, le peuple juif, ils ont vu dans ce livre une histoire d'amour entre eux et l'Éternel. Que Salomon représente l'Éternel. Le Dieu majestueux et la Sulamite, c'est la nation Israël. Et il se base sur certains passages comme Deutéronome 32, Ézéchiel 16, où dans les prophéties, Dieu il parle du peuple juif, de la nation Israël, comme son épouse. Donc, et même comme une vierge totalement à lui. Comme toutes les allégories, il y a parfois des problèmes. Avec celle-ci, on manque le côté de l'infidélité d'Israël qui est accompagné avec chaque allégorie dans les prophéties où on décrit justement le peuple d'Israël en tant que l'épouse de Dieu. Et puis un retour. Mais comme c'est seulement le commencement du mariage, on pardonne. Parmi les chrétiens, il y a deux allégories dominantes. La première, c'est peut-être moins connue, et un peu plus difficile à voir. Là, on voit trois personnes. On voit l'Église ou un chrétien. On voit Salomon qui est représenté par le diable qui veut l'attirer. Rappelez-vous que Salomon, il avait 10 000 000 de femmes et il a fait beaucoup contre la loi de Dieu. Et puis, il y a Jésus, le bien-aimé, qui veut attirer le chrétien vers lui pour tous ces jours. Alors, là, il faut vraiment pousser les images très loin pour y arriver, j'avoue. Et c'est pour ça que j'ai vraiment du mal à l'accepter. Alors, il y a des moments de prophétie. Par exemple, quand Salomon il construit le temple, il fait une dédicace et il fait une prière qui est prophétique. Dans un seul instant, dans sa prière, il parle de toute l'histoire nationale dans un seul coup. Et c'est fascinant. Donc il y a justement ça. Et quand on regarde Cantique des Cantiques, on voit bien aussi qu'il y a, quand on parle de cette troisième allégorie, un côté prophétique entre Jésus et l'Église. Alors, est-ce qu'il y a un passage dans l'Écriture où nous pouvons le dire que le voici? Et oui. Effectivement, en Éphésiens, donc dans le Nouveau Testament, Éphésiens 5, verset 25, je vous lis. « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Verset 32. Ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Donc, il y a effectivement un très solide rapport entre Cantique des Cantiques et cette relation entre Jésus et son Église. Alors, un dernier petit mot. Parce que qui est cette Sulamite? une petite histoire pour comprendre. Un roi, je résume l'histoire. Il y a le passage entre les deux rois. David qui meurt, Salomon qui reprend le relais. David, il est devenu si fragile, si vieux, qu'il ne peut plus se réchauffer. Alors, à cette époque, ils ont cherché la femme la plus belle qui soit dans le royaume, qui s'appelle Abishag, qui est devenu, en quelque part, un serviteur pour le roi. Il n'a jamais eu de relation avec elle, mais elle est devenue comme une petite fille pour le roi. Alors, après sa mort, quand Salomon a pris le royaume, son frère aîné, même s'il n'était pas couronné roi, il voulait se marier avec cette femme qui s'appelle Abishag. Pourquoi? Parce que ça va faire un coup politique qui peut déstabiliser le royaume de Salomon. Salomon, il le voit très bien et il s'y oppose et on pense que c'est à ce moment-là qu'il se marie lui-même avec Abishag, dont on pense qu'il est cette Shulamite. Et pourquoi on dit ça? Parce qu'on voit que c'est une femme israélite et ça se passe même dans la connaissance qu'il y avait d'autres femmes avec qui Salomon était déjà marié, qui serait tout à fait le même scénario que nous avons dans le Cantique des Cantiques. Lisons un petit peu le passage. Verset 1. Cantique des Cantiques de Salomon. Voilà le titre. Mais verset 3. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. Et c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements et nous égayerons et nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrons ton amour plus que le vin. C'est avec raison qu'on t'aime. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi et ils m'ont fait gardien des vignes. Ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée. Donc on voit que c'était une femme qui travaillait. Encore une autre raison pour favoriser Abishag. Une femme qui travaillait. Quelque chose qui ne se faisait pas parmi les princesses. Et ça, on le sait à cause de la couleur de sa peau. Mais bon, c'est vrai, il y a des choses historiques qu'on peut dire par rapport à ça. Mais la chose qui m'intéresse, c'est qu'il y a un amour si intense entre ces deux. Même si elle n'est pas la princesse typique, ben Salomon, il l'aime. Il aime cette femme comme si elle était parfaite, parce qu'elle est parfaite à ses yeux. Alors, quand on regarde les choses spirituellement, qu'est-ce que nous voyons? Jésus-Christ qui aime son Église et qui la purifie. Jésus, il n'est pas dupe. Il sait qui nous sommes. Effectivement, sa mort sur la croix est son suprême acte d'amour pour sauver un peuple qui ne le mérite absolument pas. Rappelez-vous, sur la croix, quel était le mot qu'il a dit? Si ce n'était « pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc même sur la croix, il était prêt à pardonner ceux qui l'entouraient, ceux qui l'insultaient. L'amour suprême, Jésus-Christ, ressuscité, est assis à côté de son Père. La Bible dit en Romains 4, il justifie ceux qui viennent à lui par la foi. C'est-à-dire que par la foi, nous qui croyons en lui, il donne sa justice qui est à lui, une justice parfaite. Évidemment, c'est parfaite, c'est Jésus-Christ. Il est sans péché, mais il nous donne sa justice. Et ça, ça fait partie de son amour. Donc, à ses yeux, comment est-ce que le Seigneur nous voit? Parfait. Et bien-aimé. Donc, même si on n'a pas vraiment fait attention à nous-mêmes dans notre vie passée, il nous aime à ce point-là. C'est absolument merveilleux. Écoutons ce que Salomon dit, verset 15. « Que tu es belle, mon ami. Que tu es belle. Tes yeux sont deux colombes. » Et la Shulamite. « Que tu es beau, mon bien-aimé.
que tu es aimable. Notre vie, c'est les verdures, les solives, les maisons, les cèdres, nos lambris, ce sont des cyprès. Je suis un narcisse, ça rend un lit des vallées. Salomon, comme un lit au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Verset 3, le Sélémite, comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. Là, on peut entendre presque comme un opéra avec deux chanteurs qui chantent l'un à l'autre. Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin et la bannière qui déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifie-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Alors, faisons une pause sur ce verset 4 qui est un verset très connu, répandu par les chrétiens surtout. On pense notamment à Bernard Clairvaux qui a prêché là-dessus. Il y avait beaucoup sa bannière qui déploie sur moi, c'est l'amour. Et là, on voit dans un premier sens cet amour entre les époux. Effectivement, ils habitent sur un toit et cet toit, c'est l'amour, c'est ce que Dieu veut. Jésus, en citant Genèse, il a dit « C'est pour ceci qu'un homme quittera son père et sa mère pour se marier à une femme. » Et ce que Dieu a uni, que l'homme ne se sépare. Mais spirituellement, ça prend des proportions encore plus étonnantes. Car Dieu est amour. Et donc, si nous sommes chrétiens, nous portons le nom de Christ. Ceux qui le ressemblent, Christ, qui est le symbole même de l'amour, effectivement, nous marchons aussi en dessous d'une bannière, nous vivons sous le toit de son amour qui nous couvre, son amour qui ne nous rejette pas, son amour qui est toujours fidèle. Et c'est vrai, quand on regarde l'amour de nos jours, qui est vraiment fidèle à ce point que Dieu est fidèle. Mais il est fidèle à 100%. C'est un réconfort dans les moments où nous trébuchons, dans les moments où nous nous éloignons de notre maître, parce que nous savons qu'il est toujours bon. Mais c'est ça ce qui est formidable avec Jésus, parce que c'est sa bonté qui nous pousse à la repentance, qui nous donne même cette envie de dire pas « Oui Seigneur, j'ai eu tort, je confesse mon péché parce que nous savons qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Sa bannière au-dessus de nous, c'est amour. Et c'est merveilleux, ça c'est notre Dieu. À partir de verset 8, il dit une autre chose intéressante. Il dit, c'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Bon, elle imagine un peu des choses. Mais il parle de sa voix. Est-ce que vous savez que Jésus apparaît aussi de sa voix en Jean chapitre 10, là où il parle de lui-même comme le bon berger, il a dit « Mes brebis reconnaissent ma voix ». Et c'est vrai, quand on entend la voix du Seigneur et quand on entend dans sa parole et ça parle et on le reconnaît tout de suite, c'est la réalité. Je me rappelle la première fois que je suis allé dans une église et j'ai entendu une prédication sur la grâce de Dieu. C'était comme ça, c'était comme enfin j'ai entendu cette voix que j'ai désiré entendre pendant toute ma vie. C'est vraiment comme la chose que je voulais entendre, sa voix, on le reconnaît. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle, verset 9. Où la pharaon des biches, et voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Car l'hiver est passé, la pluie a cessé. Elle s'en est allée, les fleurs parissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. La voix de la tourterelle fait entendre dans nos campagnes. Et là, on voit comment notre Dieu aussi il nous prend par la main et il nous guide. Il nous guide Comment ? En joie, non ? Même si nous parlons d'une histoire entre un homme et une femme, je crois que Dieu, il veut aussi que nous ayons la passion pour lui. Je crois que c'est même normal, quelque part, quand on voit tout ce qu'il a fait pour nous. Par exemple, si vous trouvez un bon affaire, imaginons c'est la période des soldes, et vous trouvez exactement la chose qu'il vous faut, et c'est à un prix exceptionnel, vous l'achetez. Est-ce que vous allez garder ce secret pour vous, ou est-ce que vous ne serez pas si content de même porter la chose le lendemain et de le dire à tout le monde, bah, voilà ce que j'ai trouvé, et justement pour partager la bonne nouvelle. Bon, c'est une petite chose, mais encore plus, quand on considère tout ce qu'il a fait pour nous, comment il nous a sauvés, il nous a lavés, il nous a changés, je dirais que c'est normal. C'est normal qu'on le loue. Et verset 15, prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Ça c'est aussi, c'est un verset très connu, mais très important. Les petits renards, là, ils parlent qui ravagent les vignes qui sont en fleurs, la vigne qui représente leur amour, donc les renards qui détruisent cet amour. De même aussi, il peut y avoir des petites choses qui nuisent aussi à notre amour pour notre Dieu. Des mauvaises habitudes, des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas, des soucis. Jésus a parlé dans la parabole du semeur de ceux qui sont étouffés par les soucis de la vie. Aussi de ceux qui sont comme la bonne nouvelle qui est semée parmi des pierres qui n'ont pas suffisamment de profondeur en eux-mêmes. Des choses qui peuvent étouffer notre relation avec le Seigneur. Donc nous voyons qu'il y a la joie, la passion à connaître le Seigneur, mais c'est aussi quelque chose à s'entretenir. On ne veut pas être légaliste, on ne veut pas être toujours à la recherche avec notre loupe en cherchant la petite bête quelque part qui nuit à notre relation avec le Seigneur. Mais il révèle parfois des choses qui ne vont pas, des petits renards, des habitudes, et on le sent parce qu'il y a une chose qui commence à prendre un peu de la place dans notre vie, une place un peu plus importante. Dans ma vie, récemment, j'ai remarqué, après que mon ordinateur est tombé en panne, à quelle place je lui ai attribué dans ma vie. Effectivement, toutes les heures que j'ai passées à regarder ceci, à faire cela et tout, que finalement, ça nuit un petit peu à ma vie de prière. Donc, quelque part, il faut que je remercie Dieu un petit peu pour m'avoir donné ça, mais je prie toujours qu'il me donne quelqu'un pour le réparer. J'en avais besoin. Mais on doit faire attention à ces petits renards. Chapitre 3. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. J'ai cherché. Je n'ai point trouvé. Je me levais. Je ferai le tour de la ville, dans les rues, sur les places. Je cherchais celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché. Je n'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère. Alors, là, c'est comme elle se soulève un jour. Oui, mon bien-aimé. Elle se sent un peu isolée, un peu seule. Et puis, c'est normal, elle cherche vraiment son amour. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort, elle parle avec les gardes, avec tout le monde. Quelqu'un a vu Salomon? Certainement, vous le reconnaîtrez, il est le roi d'Israël, grand, qui porte la couronne. Et puis, dès qu'elle le trouve, elle s'attache à lui, elle ne veut plus le relâcher. Et ça aussi, c'est une très belle image. On est en Jérémie 33. Parfois, on est dans des moments on se sent aussi un peu isolé, un peu là, un peu sombre. Et ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Puisque Jésus a dit avant d'être enlevé, il a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Mais notez bien ce qui est dit en Jérémie 33:3 « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas ». C'est une invitation. Dans le contexte, c'est Jérémie qui parle à son peuple Israël qui est en déportation, qui sont dans un moment vraiment difficile. Et il dit, invoque-moi, je veux te parler, je veux vraiment te communiquer, je veux te consoler. Mais quelle est la condition? Il faut qu'il invoque, qu'il le cherche. Souvent c'est ça. Ah, Dieu est tout près, il veut nous consoler, il veut être près de nous. Et parfois, il y a même une leçon à prendre dans la difficulté. Condition qu'on le recherche. Là, elle, pour retourner à la Sulamite, elle se lève le matin et la seule chose qu'elle sait, elle se sent un peu distanciée de son bien-aimé. Hein? Elle le recherche. Et elle ne joue pas, elle recherche de tout son cœur. Effectivement, elle le trouve. C'est ça, notre Dieu aussi. Parce qu'il n'est pas capricieux, comme les dieux grecs, par exemple, qui font leur propre volonté. Non, lui, il est amour. Et même si... il nous fait peut-être travailler un petit peu, nous fait prier ardemment parce qu'il sait que nous en avons besoin. Et en réalité, il est tout prêt et ce qu'il veut vraiment est de nous accueillir dans ses bras. Et regardez ce que Salomon dit. « Je vous conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle vienne. » Donc, il est tout content et il dit qu'elle est la plus parfaite. Elle est vraiment son bien-aimé. Alors, chapitre 4, Salomon qui parle encore. « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colonnes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. » Suspendu au flanc de la montagne de Galate, tes dents sont comme un troupeau de brebis tendues qui remontent à l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucun d'elles n'est stérile. Donc c'est une drôle de façon de décrire son amour. Bon, là, il dit, on pourrait dire autrement, elle est absolument parfaite et il ne lui manque pas une dent. Voyons à quel point les choses changent. Bon, c'est un style vraiment oriental. On compare le bien-aimé avec des aromates, avec des choses qu'on voit. Et vraiment, je vous le donne plutôt comme devoir à lire parce que la poésie est superbe. Mais c'est vraiment un livre parfait pour justement les mariés, les couples mariés. Parce que ça montre que Dieu, il a un plan justement pour le mariage. Il a quelque chose vraiment d'extraordinaire qu'il veut. Même l'acte sexuel qui est décrit parfaitement là-dedans, c'est une bénédiction de Dieu. Tout à fait au contraire de ce qui a été enseigné dans le passé, parfois dans différents mouvements chrétiens. Là, le livre Cantique des Cantiques, il renverse tout à fait cette idée en disant que dans le contexte du mariage, Dieu veut que les époux s'aiment et qu'ils se jouissent vraiment de leur relation et qu'ils cultivent et que ça soit même comme un don de la bénédiction de Dieu répandue sur eux. Donc, nous voyons que Dieu est bon Et il a des choses merveilleuses à donner pour ceux qui suivent ses voies. Alors, chapitre 5, il y a une petite histoire que j'aimerais bien relever parce que ça va très bien avec notre histoire. Salomon, j'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. La Sulamite, mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Elle continue, je t'ai endormi. C'est là où commence la vraie histoire. Je t'ai endormi, mais mon cœur vieillit. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique et comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe s'est répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'avais le souffle coupé. Quand il me parlait, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, je l'ai appelé et il ne m'a pas répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Je suis malade d'amour. Ah, voilà la scénario. Elle s'est endormie. Et le roi, il vient. Lui, bon, peut-être il était parti en campagne, on ne sait pas. Mais elle s'est lavée et elle était fatiguée et donc elle s'est couchée. Lui, par contre, il était tout content et il veut maintenant qu'il entre dans sa chambre. Et elle repousse. Et il essaie encore. Et elle voit même sa main sur la fenêtre. Et c'est là où elle dit, mes entrailles se sont émues pour lui. Elle attend, mais elle a attendu trop longtemps. Parce que quand elle se lève, il est parti. Et elle part. Et il n'y a personne qui l'a vu. Même les gardes l'ont pris pour une brigande ou quelque chose. Ils l'ont arrêté. Alors, d'abord, entre, pas seulement les conjoints, mais entre les amis, il n'est jamais sage de repousser l'affection ou même l'amitié d'un autre. Mais pour l'allégorie, quand on parle de Dieu, quand on a ce sentiment, on est fatigué. Et puis il y a cette petite voix qui dit, tu n'as pas lu ta Bible aujourd'hui. Puis on se dit, oh oui, mais je suis fatigué, je vais juste regarder une petite chose sur la télé. Mais tu n'as pas prié aujourd'hui non plus. Et c'est comme une frappe à la porte. Et on commence à... On veut dormir, mais on n'est pas tellement tranquille. Alors c'est là où il y a tout à jouer. Parce que là, c'est comme Salomon. C'est Dieu qui tape sur votre porte et dit, mais mon bien-aimé, je veux passer du temps avec toi. Je veux te bénir avec une bénédiction spirituelle. Je veux passer du temps avec toi. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez le propulser? Faire une substitution pour un film le soir? Ou... Il est toujours plus souhaitable, toujours plus bénéfique d'écouter ses voix. De ne jamais repousser, de ne jamais attrister le Saint-Esprit qui nous parle en ces moments-là. Pourquoi? Ce n'est pas parce que Dieu il veut que nous lisions son livre dur et ennuyeux. C'est parce que la Bible est sa lettre d'amour envers nous où il peut nous édifier, il peut nous soulager, il peut nous donner la chose dont nous avons besoin. Et parfois, quand on a cette petite voix derrière, c'est parce qu'il a quelque chose pour nous. Et je sais dans ma vie, quand je l'écoute et je le suis, je suis toujours béni. Il y a toujours quelque chose. Et quand je le repousse, je me sens plutôt comme cette pauvre femme qui est rouée des coups par les gardes après, parce que les choses ne vont jamais aussi bien. Parce qu'on a tout simplement raté une belle occasion de passer avec le Seigneur. Et heureusement, ils se réconcilient. Chapitre 6, les filles de Jérusalem, ils disent, mais où est allé ton bien-aimé, excusez-moi. Oh, la plus belle des femmes, de quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le cherchons avec toi. Elle dit, mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins. Donc, elle appelle et elle lui dit, bon, il est parti, je cherche. Et finalement, Salomon, il vient sur scène, verset 4, il dit, tu es belle, mon amie, comme Tirsa, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Donc, effectivement, il n'apprécie pas son geste, justement, de le pousser. Mais bon, chapitre 7, on voit qu'ils se réunissent tout à fait, tout ça est tout à fait passé. Les filles de Jérusalem disent, reviens, reviens, Sulamite, reviens, afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder, Sulamite, comme une danse des deux cœurs? Fille de Jérusalem, que tes pieds sont beaux dans tes chaussures, fille de prince. Les contours de ta hache comme des colliers, œuvre des mains d'artistes. Et puis Salomon qui chante encore, verset 7, que tu es belle, que tu es agréable au mon amour au milieu des délices. La Sulamite, à la fin de verset 10, elle parle à lui, verset 11, excuse-moi, je suis à mon bien-aimé. Et ses désirs se portent vers moi. Viens, mon bien-aimé, sortant dans les champs, demeurant dans les villages. Dès le matin, nous irons aux vignes et nous verrons si la vigne pousse et si la fleur s'ouvre. Alors, fin des disputes. Ils se sont réconciliés. Alors, enfin, chapitre 8 est la conclusion de cette très émouvante belle chanson. Oh, que tu n'es mon frère, c'est la Sulamite qui parle. Allaitée des mamelles de ma mère, je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai et l'on ne me méprisait pas. Je veux te conduire, t'amener à la maison de ma mère et tu me donneras des instructions. Je te ferai boire du vin parfumé, du moût de mes grenades, que sa main gauche soit sous ma tête et sa droite m'embrasse. Salomon, je vous en conjure, fille de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Alors, là, il y a une phrase qui se répète, une phrase bien importante. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut dire que l'amour, on parle de l'amour conjugal, est une chose puissante. Effectivement, pour ceux qui veulent le réveiller et ceux qui le cherchent à tout prix, est-ce qu'ils sont heureux pour autant? Non, non. Regardons dans notre société tout le dégât qui se fait au nom de l'amour. Les gens qui ont des problèmes même psychologiques à cause des blessures réelles confondent un amant ou une amante, des choses qui se faisaient en dehors de la volonté de Dieu, tout simplement parce qu'ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas fait les choses comme Dieu le voulait. Donc il dit, ne réveillez pas, c'est une chose puissante, dévorante. Paul, l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 7, il parle justement de ceux qui sont célibataires. Jésus a parlé aussi du don du célibat, parce que c'est un don. Ceux qui ne sont pas mariés, ils ont justement devant eux, toute leur vie, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, comme ils le veulent. Ils ont beaucoup plus de temps pour servir le Seigneur et profiter de la vie pour le Seigneur. Encore plus forte raison pour prendre cette allégorie à cœur. Parce que le célibataire qui mène sa vie en voulant faire plaisir à Dieu est quelqu'un qui attend d'une belle manière la venue de l'amour le jour où Dieu le lui donne, son âme sœur, son âme frère. Oui, par sa volonté, tout à fait, tout à fait. Et cette personne-là qui choisit d'aimer son Dieu serait la personne la plus heureuse parce qu'il y a une bénédiction dans le célibat. Et il y a effectivement un mensonge qui court trop souvent dans les milieux chrétiens que le jour où je serai marié, et puis point d'interrogation, le jour où je serai marié, enfin je pourrai faire, le jour où je serai marié, je serai... Mais non, c'est tout à fait faux. Dieu peut vous combler et il peut faire tout ce qu'il veut. Et il peut faire des grandes choses pour vous. Et si vous n'êtes pas content maintenant, avant, il est très peu probable que vous soyez plus content le jour de votre mariage, ou enfin, peut-être le jour de votre mariage, oui, mais un an après. Les filles de Jérusalem, verset 5. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé Salomon? Je t'ai réveillé sous le pommier. Là, ta mère t'a enfanté, et c'est là qu'elle t'a enfanté et qu'elle t'a donné le jour. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel, encore puissance de l'amour. La Sulamite, les grands eaux ne peuvent atteindre l'amour et les fleuves ne submergeaient pas. Quand un homme offrait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirait que le mépris. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermons avec une planche de cèdre. C'est-à-dire que, donc, avec tout ce qu'on a vu de cette puissance de l'amour, sachant qu'il ne faut pas réveiller l'amour avant son temps, avant que Dieu ne le veuille, alors là, ils disent, bah, nous avons une petite sœur. Elle n'est pas à l'âge des amours. Elle n'est pas encore mature. Donc, ils disent, bon, si elle est donc une mûre, donc si elle est close, si elle est timide, elle n'est pas la genre de personne qui va chercher partout pour son amour. Donc, on va faire des créneaux, mais en argent, pour la mettre plus en valeur. Parce que c'est une femme de valeur prudente et sage. Mais, si elle est une porte, si elle est grande, ouverte, et audacieuse, et elle cherche partout, non, là, en fermant avec une planche de cèdre. Pour qu'elle devienne sage. C'est ça ce qui est entendu par ceci. Verset 11. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens, chacun apporté pour son fumier cycle d'argent. Ma vigne qui est à moi, je la garde. À toi, Salomon, mi cycle à 200 et à ceux qui gardent son habitant des jardins, des amis, prête l'oreille à ta voix, daigne me faire entendre. Fuis, mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle ou au pharaon des biches sur des montagnes des aromates. Bon, pour terminer, concernant sa vigne, est-ce que ça vous dit quelque chose où Jésus, il parle de sa vigne? Excellent! Effectivement, regardons ce que Jésus dit. Bon, là, en connaissant tous la première partie, Jésus dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron, le serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Comme le serment ne peut lui-même porter du fruit, si Il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Alors, donc, il dit, si vous voulez être fructueux dans votre vie, demeurez en moi. Mais regardez encore, il y a un verset que je trouve absolument, absolument intéressant. Et verset 9 plutôt. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même, j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a plus le plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si on veut demeurer dans la vigne, cette vigne que Salomon, dont il parle, une vigne fructueuse. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous demeurions dans son amour. Que le même amour que le Père avait pour Jésus, que ça soit déversé aussi dans notre cœur. Que nous aimions les uns les autres. Donc, la vigne qui porte du fruit est la vigne, la personne qui demeure dans l'amour de Jésus. L'amour pour son prochain. L'amour pour son Dieu. L'amour déversé dans son cœur, l'amour vécu réellement par ses mains, par ses paroles, dans ses pensées. L'amour déversé dans nos cœurs par Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et qui a fait ça si ce n'est Jésus? Et Jésus nous dit, va et fais de même. Vivez dans la même manière que j'ai vécu aussi, par la puissance du Saint-Esprit, bien entendu. Parce qu'en nous-mêmes, c'est impossible. C'est pour ça qu'il dit « demeurez en moi », pour que je vous donne cette puissance. Enfin, qu'est-ce qu'il a dit? Bannière, c'est amour. Notre bannière sur notre tête, comme nous demeurons en lui, c'est amour. Et donc, nous voyons que l'amour de Dieu nous couvre, nous protège, nous guide et nous aide à faire même sa volonté.